ce soir, les Apatrides Anonymes célèbrent leur 100e émission. Oui, mesdames et messieurs, plus de 4 ans après notre arrivée à Choc, nous fêtons cette semaine notre 100e balado. Donc, à présent, 18h31 sur les ondes de Choc.ca dans les studios à l'UQAM à Montréal. On est là depuis mars 2019, donc Simon, Marie-Ève et moi-même, bonsoir à vous deux.
Salut.
Salut, salut.
Hello.
Hello, hello.
Bon
donc,
centième, j'en perds la voix.
T'en perds la voix, exactement, Simon. Écoute, grosse semaine, puis grosse émission, mais on va fêter tout le long de l'émission, mais on va commencer dans quelques instants avec des surprises, des gens désagréables, mais connus, qui vont rendre hommage à notre émission. C'est quand même spécial. Hein.
Désagréable.
Déjà désagréable, mais connu. Oh, okay, oui, tout
oui,
à fait.
Oui.
Oh,
oui, il y en a.
Pas agréable du tout. Donc, mais c'est quand même une émission avec du contenu relativement habituel, c'est-à-dire les enjeux d'immigration, de racisme, de frontières, de droits humains, à l'étranger, à l'international, au Québec, au Canada, même très localement des fois. On va parler aujourd'hui, entre autres, d'identité autochtone. On va parler aussi de racisme anti-noir, d'islamophobie, de routes migratoires maritimes et terrestres. On va aller en Suède, en Allemagne, et on va aller dans quelques secondes au Rwanda, ben plutôt au Royaume-Uni, qui essaye d'aller au Rwanda. Et on va avoir de la musique aussi de Voivode, de Oui Merci et de Tikenja Fakoli. Donc, ben, mesdames et messieurs, on va commencer avec notre surprise de 100e émission, n'est-ce pas? On a appelé ça des autocitations, c'est-à-dire des gens connus, mais désagréables, hein, Simon? Qui,
on verra. Moi, je suis très ouvert.
Ah, t'es très ouvert, hein?
Ouais, moi, je suis pas d'accord. Les gens bon.
Non, on n'est pas d'accord. On est deux contre toi.
Bon, ben écoutez, je vais te laisser le micro, Simon, avec ta superbe voix. Écoute, je vais te demander ta citation d'un illustre local.
Ben, c'est pas tant une citation, c'est qu'on a reçu un fax de félicitations ou un bilinographe en français, hein, pardon. C'est de Jean-François Lisée. Ça se lit comme suit. Avec tous ces illégaux pustulants qui arrivent illégalement chez nous par le chemin Roxane construit par Trudeau, dont l'objectif de 500 millions de Canadiens en 2030 vise à nous assimiler et à éliminer le français en terre d'Amérique, j'ai besoin d'une émission comme les Apatrides, où j'apprends beaucoup et ça me permet de recycler les meilleures idées d'un peu partout dans le monde pour mes panels de politiciens frustrés retraités, comme l'idée géniale de mon grand chum de golf, le gouverneur DeSantis de la Floride, soit l'idée de déporter de force les migrants du sud des États-Unis vers les villes décadentes du nord. C'est pour ça qu'en grand intellectuel, j'ai proposé la même chose pour le Québec, avec des déportations de masse vers l'Ontario. Ne l'ont-ils pas l'affaire, les Américains? Donc, ben voilà, merci Ron, il conclut comme ça. Merci les Apatrides, sans vous, j'aurais jamais entendu parler de ça. Je vous souhaite une autre centaine d'émissions.
Ah ben écoute, c'est arrivé il y a quelques minutes en plus, hein, c'est fantastique.
Ben la secrétaire de Choc nous l'a passé tantôt.
Oui, oui le fax qui était dans le garde-robe, donc oui, voilà, à l'entrée. Donc, mais Jean-François Lisée qui nous rend, mais ça c'est rien Jean-François Lisée, Marie-Ève, on va y aller avec quelqu'un d'autre de localement de plus haute là.
Oui, je vous fais écouter l'extrait qu'on a reçu. Bon matin, je sais pas si vous connaissez la nouvelle tendance de l'heure, le trio radiophonique Choc UQAMien Apatrides Anonymes. Ils produisent du contenu tellement pertinent et présentent des artistes de la scène musicale underground comme King Gizzard Lizard and the King Gizzard King, King Gizzard and the Lizard Wizard que même moi je ne connais pas. C'est vraiment dommage que ce soit 3 personnes blanches. C'est tellement pas EDI, mais bon, au moins, il y a une femme. 6, mais une femme quand même. Alors, merci à vous 3. Grâce à vous, je peux continuer d'aborder des sujets sensibles de façon superficielle avec les mêmes chroniqueurs et chroniqueuses qu'on entend partout à Radio-Canada. Bonsoir.
Bonsoir, bon matin. Merci, Pénélope, Marie-Ève.
Ben oui, ben c'est oui. Ça, vous l'avez reconnu.
Elle écoute notre émission pour la musique, c'est ce que j'ai retenu quand même. C'est pas pire, ça.
Oui, ouais, et pour se sentir moins coupable d'avoir pas de contenu.
King Gizzard and the Lizard Wizard, Marie-Ève. Moi, mon local, il est moins connu, mais il est plus vieux. Pas mal plus vieux, il s'appelle Marvin Rotrin. C'est l'ex-Loos Cannon de la politique municipale montréalaise et actuel porte-parole du Bennett Brett. Je le cite. Dans les derniers jours, quand j'ai entendu parler de la 100e des Apatrides Anonymes, j'ai écouté leur balado et j'ai eu une épiphanie. Oh. J'ai compris qu'il y a bien un apartheid et un nettoyage ethnique contre les Palestiniens, et j'en suis honteux.
Oh. Ben, es-tu toujours au Bena Ebrahim?
Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais.
Il va changer les orientations.
Pas pour longtemps. Mais comme il a toujours changé de place, ça va être juste la suite des choses.
Ça serait massé à Paju ou je
sais. Ça serait drôle, ouais. Simon, à l'international, quel hommage on a eu?
Ben écoute, tout est dans tout, c'est Ron DeSantis, le grand chum de JF.
JF.
Fait qu'il nous a envoyé il nous a envoyé, lui, c'était un tweet, un X, pardon. Salut les woke, LOL. Pardon, je pensais à vous, je suis justement en train de boire une bonne margarita au condo de JF et de son épouse New Age à Fort Lauderdale. On discutait d'autres de mes bonnes idées qu'on pourrait imposer au Québec, interdire des livres qui disent qu'il faut être gentil avec les garçons efféminés, qui critiquent l'histoire du pays, qui parlent du Big Bang. Bon, le JF fait un peu sa farouche sur certains sujets, mais une fois traduit en français, « Don't say gay » ou « Critical Race Theory », je pense qu'il va être assez séduit pour embarquer et importer ces idées-là au Québec. Et de toute façon, après 2-3 Sex on the Beach de plus, je le connais, il est pas mal facile, notre Gigi. Bonne suite. Thank you, les apatrides.
Oh là 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 là, c'est assez direct et assez trivial. Hein?
Je pense qu'il a tweeté après une coupe de margarita.
Oui, 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 une coupe de saucette dans la piscine aussi. Hein? Ben. Fait que, Marie-Ève, au niveau international, qu'est-ce que tu as pour nous?
Ben, il y a celle que le média français Le Point a surnommée la Cruella britannique.
Rien de moins.
La désormais ex-ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, qui, elle, ne nous aime pas beaucoup. Elle nous a envoyé ceci. « Vous, les apatrides anonymes, vous êtes une contamination toxique et une menace existentielle pour le mode de vie occidental. Contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas raciste de vouloir contrôler nos frontières et ce n'est pas hypocrite d'avoir ce type d'opinion quand on est issu des minorités ethniques. Je n'ai pas été limogé à cause de mes propos soi-disant scandaleux sur les manifestations pro-palestiniennes, mais à cause de votre obsession à dénoncer la moindre de mes déclarations. Choc devrait mieux contrôler ses frontières, ses ondes et devrait vous expulser vers le Rwanda. »
Ah là là, je t'ai dit, elle fait l'ingérence à Choc en plus. Vraiment, ben oui. Il était temps qu'elle parte. Mais on peut se donner le crédit quand même, qu'elle est partie. Hein? Oui, oui, on est bon.
Fait qu'on a, on a une oreille attentive au 10 Downing Street.
Oui, oui, et dans les officines. Moi, je vais y aller avec Geert Wilders, chef du Parti pour la liberté et récent vainqueur des élections aux Pays-Bas. Pays-Bas d'Europe. Je le cite, « Je suis en politique active depuis près de 30 ans et je dois vous avouer que j'ai persévéré tout ce temps pour pouvoir continuer à m'opposer avec force aux dangereux antiracistes woke qui me diabolisent, particulièrement les propagandistes des apatrides anonymes. » Bon. Ça, c'est clair, hein?
Oui, on est des propagandistes.
Mais écoute, de toute façon, il est pas capable de former un gouvernement parce que personne ne veut être avec lui, parce qu'il n'y a quand même pas la majorité des députés, donc il risque de d'être dans les limbes pendant un bout de temps, fait qu'on va pouvoir continuer à rire de lui. Donc, ben voilà, quelques notes de musique festive.
Oui, oui.
Et après, on y va avec notre contenu, et c'est le 100e!
Strong, incredible borders.
80% des immigrants s'en vont à Montréal, travaillent pas, parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise.
Era provocatoria.
Matteo Salvini, vous avez lancé alors cette idée de les transports en commun, d'avoir des wagons réservés aux Italiens.
Voyons, les petits prisonniers à quatre pattes à terre, sur des petits tapis. Puis tu sais quoi, cette affaire-là?
Having a front page of the Telegraph with a plane taking off to Rwanda. That's my dream.
Il est temps de fixer des règles parce qu'au Québec, c'est comme ça qu'on fait. Merci.
Oh, toutes nos meilleures qui viennent de passer en quelques secondes. Hein?
Ben oui.
Hey, merci Simon pour le montage. Donc justement, ben Marie-Ève t'en parlait, on va parler du Rwanda et des Pays-Bas, du Royaume-Uni. Ben quand même une nouvelle intéressante, la Cour suprême britannique a confirmé il y a 2 semaines l'illégalité du projet controversé du gouvernement d'expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile arrivés de manière irrégulière sur le sol britannique. Tandis que les associations se sont réjouies de cette victoire et ont exprimé leur immense soulagement, le premier ministre Sunak a immédiatement annoncé l'élaboration d'un nouveau traité avec Kigali. Hein? La Cour a jugé le projet illégal, estimant que le Rwanda ne pouvait en l'état être considéré comme un pays tiers sûr. La Cour a cité les préoccupations concernant les exécutions extrajudiciaires, les décès en détention, les disparitions forcées et la torture dans le pays. Le gouvernement rwandais a dit contester cette décision selon laquelle le Rwanda n'est pas un tiers pays sûr pour les demandeurs d'asile et les réfugiés. Amnesty International exhorte le gouvernement à abandonner la loi sur l'immigration illégale et sa politique consistant à refuser de statuer sur les demandes de personnes demandant l'asile au Royaume-Uni. Le Refugee Council demande aux autorités de se concentrer sur la création d'un système d'asile fonctionnel, équitable et humain, et sur la mise en place d'itinéraires sûrs pour les migrants. On avait déjà parlé de ça. Le HCR a rappelé que le Rwanda rejetait 100% des demandes d'asile de pays en zone de conflit comme la Syrie, le Yémen et l'Afghanistan, alors même que les autorités britanniques concluent souvent que de telles demandes sont bien fondées. Et ça, ben, ces traités-là, ça inspire d'autres. Rapidement, ben, l'Italie va ouvrir en Albanie, un État non membre de l'Union européenne, deux centres pour prendre en charge les demandeurs d'asile arrivés sur les côtes italiennes. Dès le printemps 2024, les migrants secourus en Méditerranée par les gardes-côtes italiens seront transférés en Albanie. L'accord prévoit de prendre en charge jusqu'à 3 000 demandeurs d'asile en même temps, soit environ 39 000 personnes par année d'après les prévisions. Les mineurs, les femmes enceintes et les publics vulnérables seront exclus de l'accord. Ces deux structures permettront, je cite, de mener rapidement les procédures de traitement des demandes d'asile ou les éventuels rapatriements. Les exilés resteront le temps nécessaire, entre guillemets, au traitement de leurs dossiers. Ces centres seront placés sous juridiction italienne et bénéficieront de la collaboration des forces de police albanaises pour les activités de sécurité et de surveillance. Donc, une bonne nouvelle, mais suivie d'une mauvaise, hein? Pas moyen d'y arriver. Simon, écoute, route migratoire terrestre, je t'écoute.
Oui, ben Chili, Pakistan, Serbie, Hongrie, Finlande, Russie, Scandinavie, donc gros programme. Si j'ai pas le temps, on en regardera pour la prochaine fois.
Ben oui.
Attachez-vous. On commence avec une nouvelle tragique du Chili dans la petite ville de Coronel, à 500 km au sud de Santiago. Trois familles vénézuéliennes, 6 adultes, 8 enfants âgés de 4 à 13 ans sont morts dans l'incendie de l'immeuble où ils habitaient, entassés dans des conditions tellement bancales et encombrées que même les pompiers ont eu de la difficulté à se rendre.
Mm-hmm.
Une fois sur place, c'est la citerne des camions sur laquelle il fallait compter puisqu'il n'y a pas de bonne fontaine.
Dans ce quartier.
On est dans un bidonville.
Ouais.
Selon l'agence France-Presse, l'incendie aurait été causé par un poêle bricolé par les victimes pour se protéger du froid.
Oui, évidemment.
Dans ce bidonville-là vivent environ 200 familles vénézuéliennes qui fuient la crise dans leur pays. Souvent arrivent clandestinement au Chili à pied une très longue route via la Bolivie ou le Pérou. Donc, triste nouvelle qui est aussi malheureuse que pas si banal que ça, finalement, parce que ça arrive quand même.
C'était prévisible aussi.
Moi,
hein.
Ouais, surtout qu'il aurait pu être évité aussi.
Ben, tout à fait.
Ben, si on pouvait accueillir les gens, les loger dans des situations avec au moins la base là, pour question de sécurité.
Ouais.
On se déplace maintenant à 16 000 km au Pakistan. Je vous avais dit que ça irait vite, ben voilà. Je vous fais un suivi sur une nouvelle dont on a parlé il y a un mois, je crois. Le gouvernement pakistanais avait annoncé en septembre qu'il exigeait que les migrants afghans non enregistrés soient expulsés du pays au plus tard le 1er novembre si elles ne quittaient pas par elles-mêmes. Les purges policières et les violences par des milices pas toujours identifiées avaient déjà commencé, suivies de détentions et d'expulsions, visant autant les personnes d'origine afghane en attente de statut que celles avec statut officiel, même si l'annonce visait les personnes sans statut.
Mm-hmm.
Ça s'est pas essoufflé depuis. Selon Amnesty, il y aurait eu, depuis l'annonce du gouvernement, 170 000 Afghans, dont beaucoup vivent au Pakistan depuis des dizaines d'années, qui ont déjà quitté le pays, 170 000, par leurs propres moyens ou expulsés de force.
Okay.
Depuis début octobre, plusieurs maisons et quartiers complets à majorité afghane ont été démolis sans avertissement par la ville d'Islamabad, alors que beaucoup d'affaires personnelles, dont des documents d'identité, se trouvaient encore à l'intérieur des bâtiments, ce qui a clandestinisé presque automatiquement plein de monde et les rend ainsi éligibles à l'expulsion immédiate.
Exact, ouais.
Au niveau des détentions, il y a eu 49 nouvelles prisons temporaires qui ont été construites en quelques semaines.
Et là là.
49, et ils pourraient s'en construire encore plus prochainement. Et c'est géré en parallèle du système légal, selon Amnesty International. Donc, évidemment, les conditions, on se doute, une salubrité, tout ça, c'est que c'est pas très...
Droit de la personne et compagnie, ouais.
Ouais, ouais, accès à des avocats, les familles savent même pas si les personnes ont été expulsées ou si sont emprisonnées, dans quel centre elles sont. Même les médias n'ont pas accès, les ONG non plus, évidemment. Donc, les Afghans ou Pakistanais d'origine afghane qui n'ont pas encore été détenus ou expulsés ont peur, se cachent, ne sortent plus pour faire leurs courses, n'envoient plus leurs enfants à l'école. Toutes sortes d'enjeux uniques à chaque personne réfugiée. Il y a des journalistes, il y a des couples mixtes ou avec enfants nés au Pakistan. Donc, vraiment tout un bordel.
Oui, administratif et légal. Et
c'est ça. Puis on reste là. J'ai plus d'infos en lisant l'article d'Amnesty qui s'appelle « Il faut mettre fin aux détentions et expulsions massives de réfugiés afghans ». Je fais un autre petit saut. Je vais couper un peu. Excusez, je pense que je vais devoir... est-ce que Mathieu, tu veux
oui,
peut-être...
Oui, passe-moi tes feuilles si tu veux. Ben oui, il n'y a pas de problème.
Par exemple, à partir d'ici.
OK.
Ça sera pas merci long. Beaucoup, la voix
ben oui.
m'a fait défaut.
Donc, on va 2000 km plus loin vers le nord. On apprenait récemment que le gouvernement finlandais, dirigé par une coalition de droite et d'extrême droite, prétend que Moscou envoie volontairement des migrants d'Afrique et du Moyen-Orient à sa frontière pour, dit-on, déstabiliser le pays en représailles de son adhésion à l'OTAN. Ouais. Ça reste des spéculations. Pourtant, on n'en est vraiment pas dans des chiffres alarmants. On a eu des pics de quelques dizaines de réfugiés par jour. Mais on a quand même décidé de fermer complètement la frontière jusqu'au 18 février 2024. Décision qui a d'abord été bloquée par une instance administrative qui vérifie la conformité des décrets du gouvernement, qui a ensuite revu certains termes et finalement obtenu le OK pour procéder. Le gouvernement finlandais demande, de manière plutôt insensible, aux migrants qui veulent faire une demande d'asile de se présenter en Finlande par avion et par bateau seulement.
Ben oui.
OK. Donc, pour les migrants qui sont actuellement à pied, qui approchent de la frontière, sur terre, évidemment, c'est l'hiver, donc ça pose quand même des risques très élevés quant à leur santé et même leur survie. J'imagine que c'est des demandeurs d'asile qui ne sont pas des Russes, hein?
Non, c'est, ben, en fait, il y en a eu.
Il y en a eu.
Suite à l'invasion de l'Ukraine, actuellement, c'est des gens en Proche-Orient, en Afrique, principalement.
Principalement. Et je termine, ou Simon termine, avec la signature fin octobre d'une entente entre les 5 pays scandinaves sur une nouvelle coopération pour le renvoi des migrants déboutés ou en situation irrégulière. L'Islande, qui se trouve, je ne sais pas sur quelle route migratoire exactement, peut-être celle du Groenland, a ratifié l'entente, et pourquoi pas. Entente qui prévoit aussi d'impliquer davantage Frontex, l'agence frontalière européenne, dans, j'ouvre les guillemets, des vols Frontex communs vers les pays d'origine des ressortissants, un classique. Question d'humaniser les expulsions, on promet de soutenir l'intégration aux pays d'origine. Aucune idée de ce que ça veut dire. Donc, ce seront de doux et gentils renvois vers l'Afghanistan, la Syrie, le Soudan, le Congo, le Tigré. Et on parle encore, et oui, de retours volontaires, autant que possible, même si ça veut dire, dans certains cas, de retirer des permis de séjour. Donc, l'approche danoise dite de « zéro réfugié », avec cette nouvelle entente, on peut vraiment affirmer qu'elle se généralise à l'ensemble de la région scandinave.
Effectivement. Et
merci, Simon.
Ça fait plaisir, Mathieu.
C'est maman ou si tu veux.
Et moi, je vais poursuivre, de toute façon, après la pièce qui s'en vient avec la Suède et l'Allemagne. Il y a des choses semblables aussi qui se passent. On va donc aller écouter un grand monsieur qui s'appelle Dikenja Fakoly. Son dernier album est sorti fin 2022. On l'avait un peu oublié. C'est son 11e. L'album s'appelle « Braquage de pouvoir ». Et la pièce qu'on va entendre, c'est « Où est-ce que tu vas? »
Ils sont nombreux, tu sais, à n'être jamais arrivés. Elles sont nombreuses, tu sais, les vies brisées à poursuivre un mirage. Nombreux se sont perdus en route à croire un miracle. Nombreux ont connu la déroute. Combien de mères ne reverront jamais leurs fils? Combien de mères plaisent ceux qui sont partis? Où est-ce que tu vas? Toi-même, tu ne le sais pas. Où est-ce que tu vas? Je ne sais pas, la traversée est dangereuse. La traversée est dangereuse. Si tu savais, tu veux croire un rêve, tu risques de croiser nos cauchemars. Et quand tu te réveilles, il est souvent trop tard. Je vis couler des larmes quand l'espoir devient désespoir. Je peux raconter les drames de ceux qui n'ont pas voulu voir. partis avant toi. Que crois-tu qu'ils ont trouvé? Ceux partis avant toi, s'ils pouvaient, ils te diraient: ne prends pas ce bateau. Écoute le sens du message. Ne prends pas ce bateau qui mène tant de vies au naufrage. Combien de mères ne reverront jamais leur fils? Combien de mères blessent ceux qui sont partis? Où est-ce que tu vas? Toi-même, tu ne le sais pas. Où est-ce que tu vas? Toi-même, tu ne le sais pas. La traversée est dangereuse.
Kenja Fakoly, Où est-ce que tu vas, de son dernier album. J'ai eu la chance de le voir au Metropolis le mois dernier. Très bon show, toujours très énergique et dynamique avec ses musiciens et musiciennes. Et l'Ivoirien maintenant installé au Mali depuis plusieurs années. Donc, à suivre, il est toujours on the prowl. Je vais vous parler de... Je vais rester en Europe. Simon, Mathieu ont terminé tantôt avec avec les pays scandinaves. En Allemagne aussi, c'est un peu... Il y a vraiment une tendance de restreindre les accès par toutes sortes de moyens pour les migrants et les demandeurs d'asile. Réduire les aides financières destinées aux migrants, faciliter l'emploi des demandeurs d'asile pour des travaux d'utilité collective, accélérer les procédures d'examen de demande d'asile. L'Allemagne a pris plusieurs mesures afin de rendre le pays moins attractif pour les migrants, dont le nombre d'arrivées a augmenté cette année. Depuis janvier, près de 250 000 personnes ont déposé une demande auprès de l'Office fédéral allemand, un chiffre en hausse de 77 % sur un an, mais là, on est encore en fin de la pandémie l'année passée, donc il faut quand même calculer ça. Dans les mesures, jusqu'ici, tout étranger arrivé dans un centre de premier accueil où il est nourri et logé recevait 182 euros en liquide par mois pour ses autres besoins. Pour éviter que cet argent ne soit envoyé dans leur pays d'origine, les migrants disposeront désormais d'une carte leur permettant d'acheter dans les magasins ce dont ils ont besoin. Hein? Après leur départ du centre de premier accueil, les demandeurs d'asile en attente de traitement de leur dossier recevaient 410 euros mensuellement pour une personne seule et 738 euros pour un couple pendant 18 mois. Puis cette somme augmentait un peu plus pour augmenter de quelques euros. Désormais, ça va prendre 36 mois avant qu'ils puissent avoir cette augmentation-là. C'est vraiment, on est juste dans les détails pour sauver des sous puis pour rendre ça moins agréable ou attirant, comme ils disent. Les contrôles fixes introduits en octobre aux frontières avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse seront maintenus. Il est aussi prévu de procéder à des contrôles avant même qu'une personne n'atteigne la frontière allemande, ce qui est déjà le cas en Pologne. Des postes avancés, on pourrait dire. Un autre souhait de Berlin est d'accélérer le traitement des demandes d'asile et de limiter l'ensemble de la procédure, recours en justice inclus, à 6 mois. Actuellement, le traitement d'une demande d'asile prend en moyenne entre 6 et 18 mois. Et finalement, l'Allemagne veut également examiner la possibilité d'externaliser les procédures d'asile en dehors des frontières européennes, notamment en Afrique.
Ah, tiens donc.
Des classiques, hein? Puis côté de la Suède, ça c'est spécial. En Suède, les travailleurs non-européens devront désormais démontrer qu'ils gagnent plus de 27 300 couronnes par mois, l'équivalent de 2310 euros mensuellement, pour obtenir un titre de séjour.
Ben voyons là.
Cette mesure du gouvernement conservateur, soutenue au Parlement par l'extrême droite, l'extrême droite pour restreindre l'immigration suscite une levée de boucliers au sein des entreprises et des syndicats suédois. Les conditions de revenus désormais exigées aux immigrés non européens sont souvent au-dessus des salaires proposés dans plusieurs secteurs où les travailleurs étrangers sont indispensables pour faire tourner l'économie. Et en plus, en Suède, c'est les syndicats et les patrons qui négocient toutes les conditions de travail de l'ensemble des secteurs. L'État ne s'en mêle pas traditionnellement. Mais là, avec les démocrates de Suède au gouvernement, et les démocrates de Suède qui sont l'extrême droite, ben on a des bonnes nouvelles comme ça. Donc voilà pour mes nouvelles européennes. Marie-Ève, route migratoire maritime.
Ben oui, qui sont toujours aussi meurtrières, à commencer par celle en direction des Canaries dans l'océan Atlantique qui en finit pas de produire des drames. En novembre seulement, ce sont au moins 34 personnes qui sont mortes en tentant de rejoindre l'archipel espagnol. le 4 novembre, les secours espagnols ont annoncé la mort de 4 migrants. 2 sont décédés après leur hospitalisation dans un hôpital d'El Hierro, qui est la plus petite île des Canaries et celle qui est située le plus à l'ouest. 2 autres ont été retrouvés à bord d'un canot par des sauveteurs. Le lendemain, le ministère des Affaires étrangères a signalé dans un communiqué la mort de 13 autres personnes au large de la Mauritanie voisine. Et plus récemment, le 15 novembre, il y a au moins 7 passagers d'une pirogue secourus dans l'après-midi qui n'ont pas survécu à la traversée. L'embarcation avait passé 15 jours en mer, dont 3 à la dérive au large de Hierro, encore une fois. Elle a d'abord été repérée quand même à 155 km de la petite île par un voilier britannique. Puis là, ben, l'équipage leur est venu en aide, ont fourni de l'eau, puis sont restés à leur côté jusqu'à l'arrivée des secours espagnols. Les sauveteurs ont ensuite transféré les 54 personnes dans leur bateau, ainsi que le corps sans vie d'un 55e exilé.
55e, oui. Ouais.
6 autres personnes sont mortes pendant la traversée. Leurs corps ont été jetés par-dessus bord par les autres passagers parce que, bon... mais selon les rescapés, ce sont plutôt 8 personnes qui auraient péri sur la route parce que, d'après eux, il y était 64 migrants au total qui avaient embarqué dans la pirogue qui est partie de la ville de Khartoum en Gambie, environ quand même 1650 km d'El Hierro. Les sauvetages se multiplient aussi. Toujours le 15 novembre, il y a un autre cayuco, qui est le mot espagnol qui désigne les embarcations de migrants sur cette route-là, qui a été secouru donc avec 42 personnes à bord, toutes en bonne santé au moins. Le lendemain, 222 personnes supplémentaires ont débarqué au même endroit, 59 hommes d'origine subsaharienne qui ont été secourus en haute mer puis ramenés à El Hierro par les secours à cause de l'état de délabrement de leur pirogue, puis 164 autres personnes escortées jusqu'au port principal de l'île. Donc, entre le 1er janvier et le 15 novembre, c'est près de 32 500 migrants qui sont débarqués dans l'archipel espagnol, d'après le bilan du ministère de l'Intérieur publié le 16 novembre. C'est les chiffres les plus récents. C'est 118 % de plus qu'en 2022. C'est plus aussi que le record absolu établi là année dite en 2006, qui était l'année dite de la crise des cayucos.
Alors, 2006, ça fait longtemps quand même.
Ouais. Près de 31 700 personnes avaient débarqué aux Canaries. Puis là, on est à 32 500, puis l'année n'est pas finie.
Au mois de novembre, ouais.
Il y a aussi, bien évidemment, le drame de ceux et celles qu'on retrouve pas. Le journaliste sénégalais Ayoba Faye a d'ailleurs lancé un hashtag portée disparue. Depuis 2 semaines, le rédacteur en chef du média en ligne Presse Afrique a déjà listé une dizaine de noms de Sénégalais portés disparus. À chaque nom est associée une photo. Et donc, avec ses 34 000 followers, le journaliste espère aider à retrouver des personnes potentiellement décédées lors des traversées. Mais il veut aussi, pour lui, c'est aussi une façon de les sortir de l'anonymat et de l'oubli.
Ben oui.
Alors que, bon, aussi, là, ça fait un peu écho aux appels de la société civile sénégalaise qui demande l'instauration d'une journée de deuil national pour les migrants. Je me tourne maintenant vers la Méditerranée, où le décompte macabre des morts continue aussi.
Ben oui.
Selon le projet Migrants disparus de l'OIM, ce sont 2500 personnes qui sont mortes ou disparues depuis le début de l'année. L'immense majorité de ces morts et disparitions concernent la Méditerranée centrale, qui est considérée, comme on le sait, comme la route maritime la plus dangereuse, puisque c'est celle qui est empruntée depuis la Libye. Je rappelle que les gardes-côtes libyens sont régulièrement accusés de violence envers les migrants qui tentent d'atteindre les côtes européennes, mais aussi contre les ONG de sauvetage. La dernière altercation, d'ailleurs, avec des humanitaires remonte à septembre dernier. C'est l'Ocean Viking qui avait été visé par des tirs répétés provenant d'un navire des gardes-côtes libyens, alors que l'Ocean Viking procédait à une opération de sauvetage dans les eaux internationales. Mais il faut dire aussi que les ONG sont aussi la cible du gouvernement italien.
Ben oui, hein.
Depuis le 15 novembre, l'Ocean Viking est immobilisé par les autorités italiennes,
ben oui,
encore une fois. Et ce, au moins jusqu'à mardi prochain, là. Et l'ONG doit payer une amende de 3 300 euros. Leur tort, ben, avoir porté secours à 2 embarcations en détresse sans en avoir eu l'autorisation en amont par les autorités compétentes, parce que ça, c'est la nouvelle loi.
Oui, oui.
C'est la deuxième fois depuis le début de l'année que l'Ocean Viking est immobilisé à quai. L'autre fois, c'était en juillet 2023. Les autorités, à cause de problèmes là, concernant les radeaux de survie. Je rappelle que SOS Méditerranée a secouru plus de 39 000 personnes en Méditerranée depuis 2016, principalement en Méditerranée centrale. Le nombre d'arrivées régulières en Italie a explosé. Là, on le sait, malgré l'arrivée au pouvoir il y a un an de la coalition dirigée par Giorgia Meloni. Donc là, on est rendu à près de 142 000 personnes migrantes qui sont arrivées sur les côtes de la péninsule depuis janvier par la mer, là, contre 82 000 la même période l'an dernier. Mm-hmm. Ça, ce sont, encore une fois, les chiffres du ministère de l'Intérieur.
Tout un bilan. Ouais.
Je termine avec la Manche, où les morts sont quand même moins nombreux que sur les autres routes migratoires maritimes. Selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, la Prémar, 8 décès ont été répertoriés depuis le début de l'année. Les derniers en date là, sont survenus pas plus tard que la semaine passée, lors du naufrage d'une embarcation où s'entassaient une 60aine de personnes. Le canot achevirait à moins d'un kilomètre des côtes françaises d'où il était parti. Six bateaux et un hélicoptère là, ont été mobilisés afin de localiser deux personnes disparues en mer, qui n'ont pas été réanimées.
Qui étaient décédées, oui.
Ouais, les 58 autres ont été ramenés à terre, certains en état d'hypothermie. Là, d'ailleurs, à propos de ce naufrage, il y a 4 personnes qui ont été mises en examen et incarcérées dans les jours suivants pour aide à l'entrée au séjour irrégulier en bande organisée, blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui. Les tentatives de traverser, les opérations de secours, elles, sont toujours aussi nombreuses. Par exemple, là, pour le seul, en 24 heures, là, le week-end du 11-12 novembre, plus de 600 personnes migrantes ont atteint les côtes anglaises, tandis que plus de 200 autres ont été secourus du côté français dans différentes opérations. Lors d'une de ces opérations-là, il y a certains migrants qui ont réussi à remettre le moteur en marche. Okay. Et donc, ont refusé d'être secourus par les autorités françaises. Mais étant donné le risque, tu sais, de forcer les migrants à monter sur un bateau de sauvetage, les risques étant chute à la mer et tout, mm-hmm. Les autorités ont décidé de les laisser poursuivre leur route. Et donc, début novembre, on est à près de 25 000 traversées irrégulières qui ont été enregistrées dans la Manche, contre 40 000 la même époque en 2022. Donc, on est à la baisse de 37,5%. Ouais. Mais là, ce que les autorités ont remarqué, c'est que le nombre moyen de passagers par embarcation augmente. Là, on est rendu en moyenne 53 personnes par embarcation. C'est le double du chiffre de ce qu'on voyait
les bateaux sont
par embarcation.
Ouais.
On en met plus.
Ouais, c'est
surtout
ça.
OK. Fait que c'est ça.
C'était la conclusion. C'était un bon...
C'est plate de même comme conclusion. Là. C'était pas...
Mais il y a plus de monde dans les bateaux, puis il y a moins de monde, finalement, qui réussissent à arriver. Fait que peut-être les bateaux plus gros, ça fait que les gens coulent plus ou se rendent pas, hein, finalement.
Non, c'est ça.
Parce qu'il y a moins de monde qui arrive, finalement, en Grande-Bretagne. Bon panorama des différentes routes migratoires vers l'Europe.
Merci.
Merci à toi. Donc, on va écouter quelques notes de musique et ensuite, on revient plus au Québec et au Canada. Toujours notre 100e émission, mesdames et messieurs. J'espère que vous sentez l'esprit festif. Simon, on a perdu la voix, comme on disait tantôt. Donc, on va l'entendre dans quelques minutes. Je vais vous faire un petit micro. On revient, au Québec-Canada avec des enjeux de racisme. Je vais commencer. Je voulais le souligner quand même au niveau de l'attaque de London. Nathaniel Veltman a été reconnu coupable des meurtres prémédités de 4 membres de la famille Afzal. Au volant de sa camionnette en juin 2021, il est aussi coupable de tentative de meurtre contre le plus jeune de la famille qui a survécu à l'attaque au camion Bélier. La couronne avançait que les gestes commis constituaient un meurtre prémédité dans des circonstances de terrorisme. Toutefois, elle n'a pas déposé spécifiquement d'accusation de terrorisme. Le contexte terroriste a plutôt été avancé comme une des théories qui peut expliquer la préméditation des gestes. C'est un peu technique, là, mais cette cause reste, ce procès reste historique. Il s'agit du premier procès au Canada pour meurtre prémédité devant jury, où la notion de terrorisme est considérée comme un facteur. Lors des audiences sur la peine, la juge devra analyser la preuve et pourrait déterminer qu'il s'agissait bien d'un geste terroriste. Donc, je me répète un peu, là, mais c'est quand même important comme première. Sinon, toujours islamophobie. Un homme de Toronto a été arrêté et accusé de plusieurs voies de fait motivées par la haine. Le 18 novembre, au Centre islamique de Toronto, un homme aurait affronté plusieurs personnes, leur aurait lancé des pierres et aurait proféré des insultes, puis les aurait attaqués avec une chaîne de vélo. Une personne a été légèrement blessée. Mais trois jours auparavant, un chauffeur de taxi a abordé un homme pour lui demander s'il avait besoin de ses services de taxi. L'homme lui aurait demandé s'il était musulman, puis il l'aurait aspergé au visage avec une substance inconnue.
Ben voyons.
Voyons. Et plus tard dans la même journée, une femme qui portait un hijab aurait été abordée par un homme qui lui aurait fait des remarques désobligeantes, puis l'aurait aspergé au visage. Et c'était tout le même homme, toutes ces affaires-là. Il s'appelle Chandler Marshall, 28 ans. Il est accusé d'un paquet d'affaires. Mais évidemment, c'est...
Celui de la chaîne de Bessic aussi?
Oui, oui, chaîne de Bessic. Devant la mosquée, un chauffeur de taxi quelques jours avant et ensuite une femme avec un hijab sur la rue.
Okay.
Donc, c'est un fait divers en quelque part, mais assez frappant, assez parlant. Et les groupes musulmans ont réagi là-dessus. Mais c'est sûr que ça s'est passé à Toronto, en plein conflit israélo-palestinien en plus et tout ça. Donc, fait que voilà mes petites nouvelles un peu tristes là, sur l'islamophobie. Simon, tu nous parles de racisme anti-noir au Québec-Canada aussi?
D'abord en Louisiane.
En Louisiane, c'est vrai, oui.
Oui, ben en fait, puis tu disais que je perdais la voix, mais c'est Jeanne Moreau qui est en train de prendre possession de mon corps.
Ah oui, hein, elle est ressuscitée. OK, c'est bon.
Ah, t'es-tu mort? un cas de racisme anti-noir tellement systémique qui s'inscrit à la fois dans la géographie et la santé des gens, c'est la Cancer Alley, ou corridor du cancer. C'est les rives du Mississippi entre la Nouvelle-Orléans et Bâton Rouge. Un axe d'environ 150 km qui est constellé des deux côtés par 200 entreprises pétrochimiques, fabrication de plastique entre autres. 25% de toute l'industrie pétrochimique américaine se trouve dans le Cancer Alley, un secteur autrefois blanc et bientôt bien nanti. Je pense que Jeanne Moreau est en train de mourir déjà.
Déjà? Une deuxième fois? OK.
Au fur et à mesure que l'industrie pétrochimique s'est installée dans la région, les populations blanches ont fui vers des environnements plus sains pour être remplacées progressivement par des populations afro-américaines. Dans bien des cas, les blancs étaient prévenus des développements industriels à venir et alors vendaient en toute connaissance de cause à des familles noires sans les prévenir de ce qui s'en venait.
Mm-hmm.
En termes de développement lourd, parfois à quelques mètres de la propriété, des grosses usines puantes, pleines de fumée, bruyantes en permanence. Je suis jamais allé partir, ça sent pas très bon dans la région.
Oh, on est allé faire un tour, il y a pas longtemps, puis...
Avez-vous remarqué une odeur un peu âcre dans
l'air? Pas tant que ça, mais la fumée, puis le nombre d'usines est vraiment impressionnant, ouais.
OK. La fumée, ce serait le résultat de... c'est le résultat de substances très chimiques comme chloroprène et oxyde d'éthylène, qui sont des cancérigènes puissants.
Mm-hmm.
Ça donne des taux de cancer beaucoup plus élevés que dans le reste des États-Unis, avec les 5 counties américains les plus affectés par le cancer se trouve dans le Cancer Alley.
Exactement.
Autre statistique, en Louisiane, les Noirs subissent des émissions industrielles de 7 à 21 fois plus élevées que les Blancs.
En moyenne, ouais.
Il n'y a pas de racisme systémique.
Non, pas du tout.
Donc, cette situation entre Nouvelle-Orléans et Bâton Rouge rend captive les populations noires dont le principal capital aurait dû être leur maison.
Ouais.
Mais aujourd'hui, elle vaut pratiquement rien. Donc, ils sont coincés sur place. Inversement, il y a un autre effet collatéral, l'exode des jeunes. À peu près tous ceux et celles qui en ont les moyens ou l'occasion vont étudier et travailler à l'extérieur et bien souvent ne reviennent jamais.
Ben non, c'est sûr.
Autre conséquence du développement effréné du pétrochimique, c'est l'effacement du patrimoine afro-américain,
mm-hmm.
patrimoine historique. C'était une région remplie de plantations depuis des siècles, une des plus anciennes, des lieux de mémoire, des cimetières qui sont détruits à grands coups de bulldozers et de bétonneuses, des grands pans du passé esclavagiste des États-Unis qui sont en train de disparaître pour toujours, ce qui fera pas de peine à tous ces républicains négationnistes qui veulent qu'on arrête d'en parler ou qu'on réécrive l'histoire pour relativiser... on parlait de la Floride tantôt. Là,
ouais,
pour relativiser la période esclavagiste. Bref, suite à des mobilisations populaires sur les questions de santé et de pollution, il y a eu un début d'enquête en 2021 par l'Agence fédérale de protection de l'environnement, mais l'été dernier, on fermait l'enquête sans la compléter et sans explication. Il faut dire que l'industrie est très puissante, avec beaucoup de portes tournantes entre elles et la classe politique et judiciaire locale. Et via leur fondation, des entreprises, on donne plein de petits cadeaux communautés, la rénovation d'une école ici, un Père Noël là, un gala bénéfice pour un hôpital là-bas, tout en niant totalement tout rapport possible entre la pollution et le cancer. même si le lien est déjà scientifiquement démontré depuis quelques années. Mathieu ou Simon, je te laisse poursuivre, si ça te dérange pas.
Ben oui.
Jeanne Moreau et je sais pas trop, est rendu.
A besoin de cognac un peu, là. Hein?
C'est ça.
Parfait. C'est un dossier sur du long terme. Les dernières nouvelles, il y a des responsables de l'agence... il y a des responsables de l'Agence de protection de l'environnement qui sont finalement sortis de leur réserve ou de leur chape de plomb en publiant une lettre jugée extraordinaire en 2022 dans laquelle on parlait de racisme environnemental, terme qui a été repris par des militants de la région qui ont même apporté leur cause devant des institutions internationales, notamment le CERD, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale à Genève. Mm-hmm. Pour compléter ce segment sur le racisme anti-noir, Mathieu Simon, deux brèves viennent de chez nous. D'abord, le 2e bataillon de construction, c'est son nom, bataillon de Nouvelle-Écosse, actif durant la Première Guerre mondiale et exclusivement composé d'hommes noirs, 600, sera finalement honoré un siècle en retard. Ça a été annoncé par le ministre de la Défense, Bill Blair, il y a 2 semaines. Donc, non seulement ce bataillon n'a jamais reçu les honneurs malgré son implication jugée cruciale durant la Première Guerre mondiale, mais à l'époque, on lui avait refusé de participer à toute action tactique, de combat ou de commandement, pour limiter cette intervention à du travail manuel seulement, qui, bien que capital, n'en demeurait pas moins une forme d'humiliation à l'époque. Petit rappel historique, début de la guerre en 1914, on refusait systématiquement l'armée à tout homme noir qui se portait volontaire, point. Puis en 1916, peut-être devant les pénuries d'effectifs, on a accepté de créer un bataillon séparé et non combattant qui sera limité à des opérations de déboisement et de construction d'infrastructures, routes, voies ferrées, etc., qui sera amené en Europe. Le bataillon, ce fameux bataillon, a été dissous en 1920 sans aucune forme de remerciement ou de commémoration. Donc l'annonce récente du ministre est un financement de 2,25 millions de dollars sur 5 ans pour des activités honorifiques et des monuments commémoratifs, ainsi que pour du matériel pédagogique. Le hic, c'est qu'il n'y a plus de vétérans de la Première Guerre mondiale qui sont toujours vivants. On termine avec ça. Je vous parle de Hockey Québec, mm-hmm. qui avait commandé une étude sur le racisme vécu par ses joueurs noirs dans la région de Gatineau. On était dans la foulée de trois joueurs noirs qui avaient claqué la porte de l'Intrépide de l'Outaouais et des Voiliers d'Elmer en disant avoir été victime à répétition d'intimidation, d'insultes racistes, d'humiliations en tout genre. Le mot « haine » qui était abondamment utilisé, des références abjectes à l'esclavagisme, au champ de coton, hein, on a parlé tantôt. On a joué avec eux à George Floyd en mettant le genou sur le cou de plusieurs joueurs noirs en leur demandant de dire « I can breathe ».
Ben voyons donc.
Ah, j'avais lu ça
ben
aussi.
Ben oui, pas loin de Montréal, là, ici.
Ouais. Fin octobre, le rapport a fuité dans les médias. Il est accablant. Il contient certains des exemples que je viens de donner. D'abord, on y dénonce la banalisation assez généralisée du racisme ordinaire, autant par les joueurs, les employés et les parents. Et surtout, on y dénonce la culture du silence à plusieurs niveaux. Déjà que ce genre de rapport-là soit confidentiel, ça en dit long en soi. Mais surtout, au sein des équipes, on entretient une culture de l'omerta qui va surtout blâmer les joueurs qui dénoncent plutôt que les personnes qui sont dénoncées. On leur fait comprendre qu'en dénonçant, ils nuisent à la cohésion, à la réputation de leur équipe, qu'ils nuisent eux-mêmes à leurs propres possibilités de carrière, puisqu'aucune équipe ne voudra de joueurs qui se plaignent de leurs coéquipiers. On culpabilise la victime, finalement, comme on le voit souvent dans les cas d'agression sexuelle. Les victimes subissent en silence, parfois pendant des années, et question de garder toute l'opacité sur ces enjeux-là au niveau d'enquête interne, plutôt qu'avec des enquêtes externes indépendantes. Donc, des officiels de la Ligue qui ont surtout à cœur la réputation de la Ligue et qui enquêtent sur leur propre organisation. En terminant, je vous recommande un texte sur Pivot Québec dont le titre est « Quand le passé nous rattrape, la violence raciale au hockey ». C'est signé par Tamara Termitus. J'avais mentionné cette journaliste lors de notre dernier podcast, donc deux fois de suite. J'imagine qu'elle fait un bon travail. Surtout, je trouve ses articles bien faits et bien écrits. Et c'est par elle qu'on a su cette histoire-là de hockey
c'est ça,
en Outaouais. Donc, merci Simon, merci Mathieu.
Merci Jeanne.
Puis, là, on va en musique à Marie-Ève. Hein? Oui, tout à fait. Marie-Ève qui est à la mise en onde pour l'instant.
Pour l'instant.
On va y aller donc avec le groupe Oui, merci.
Je
Le quintet de Montréal Indie Pop, oui, merci. Leur pièce Ascendant, c'est de leur deuxième album. C'est un maxi, le premier, mais premier album complet sorti en septembre dernier qui s'appelle OK Bye Bye. C'est la pièce la plus fun, je trouvais, la plus rock. C'est en deuxième position du palmarès local de Choc, qui était en première position la semaine passée. Donc, oui, merci à voir en spectacle aussi. On parlait un peu des enjeux autochtones. Je vais introduire Marie-Ève sur la question des identités en parlant d'un groupe particulier au Québec, non loin de Trois-Rivières, un groupe autochtone autoproclamé qui se fait appeler les Maguas de Makwanini, demande à être reconnu comme tel. En 2016, les Maguas étaient apparus dans l'actualité en déposant un mémoire contre le passage du projet Énergie S sur ce qu'ils revendiquent comme leur territoire. Ils ont répété le tout cet été avec un mémoire sur les mines qui reprenait une position similaire. Dans les archives, on retrouve leurs traces à chaque siècle, mais cette histoire, peu en ont entendu parler parmi les Premières Nations reconnues, et Ottawa ne la reconnaît pas du tout. Il serait 300 dans ce qu'ils appellent le Petit Village, la communauté de la Petite Mission de Yamachiche, et 1500 en tout, dispersés entre autres à Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Élie-de-Caxton en Mauricie. Depuis une quinzaine d'années, ils ont pu compter sur le soutien d'experts reconnus, comme Rémi Savard ou Denis Delage, dans un article paru en 2010 intitulé « La mémoire orale contemporaine des Algonquins de Trois-Rivières ». Delage et Claude Hubert énumèrent les raisons qui, selon eux, font que les Maguas et les Algonquins de Trois-Rivières ne font qu'un. Je nommerai pas toutes les raisons, mais il y a des enjeux d'architecture, des enjeux d'oppression, différentes choses. Mais lorsqu'on parle des Maguas, plusieurs voix influentes parmi les Premières Nations, peu s'épanchent. Jacques T. Watsou, membre du conseil d'Odanak, affirme « Il y avait une communauté autochtone à la Petite Mission, puis une des familles s'est installée à Wallinak. Le reste est allé à Kanasatake, puis à Kitsigan-Zibi en Abitibi. Maintenant, ceux qui sont encore à Yamachiche, ce sont des Blancs. » Je cite un démographe qui s'appelle Serge Goudreau. « Ils existaient au 19e siècle, personne ne nie ça, mais les Maguas actuels, ce sont des Canadiens français, rien d'autre. » Donc, c'est un peu ça l'enjeu actuellement. C'est un article sur Espace autochtone qui explique un peu l'historique. Ça vous tente de pousser un peu pourquoi le fédéral refuse, un peu qu'est-ce qu'eux revendiquent, d'où ils viennent. Mais c'est les Autochtones de Trois... Les Algonquins de Trois-Rivières, oui, voilà. Excuse. De la Mauricie, ouais, tu étais concentré sur ta partie.
C'est ça.
Donc, je te souhaite, tu restes dans les mêmes enjeux, Marie-Ève,
oui,
sur l'identité.
Oui, c'est ça. Ben, toi, t'avais déjà parlé aussi du cas de l'Ontario à l'émission, là. Au projet de loi 53, le projet de loi fédéral, qui reconnaîtrait certains gouvernements métis en Ontario, en Saskatchewan et en Alberta. Mais là, cette fois-là, ce sont les dirigeants de la Fédération métisse du Manitoba qui tirent la sonnette d'alarme. Juste pour vous rappeler un peu, là, c'est quoi le projet de loi 53? En fait, c'est que ça viendrait ratifier des ententes d'autonomie gouvernementale signées en février dernier entre le gouvernement fédéral et trois groupes. Donc, la Nation métisse de l'Ontario, comme je disais, celle de la Saskatchewan et celle de l'Alberta. Ces 53 jetteraient aussi les bases d'un processus pour l'approbation de traités avec ces organisations-là. Un des problèmes, c'est que la FFM et les Premières Nations de l'Ontario jugent que les 6 communautés de la Nation métisse de l'Ontario sont pas légitimes. Mm-hmm. Et selon la FFM, la loi créerait aussi un précédent dangereux parce que, si elle était adoptée, elle permettrait au gouvernement d'approuver à l'avance des traités non encore écrits avec les groupes qui se proclament métis dans ces provinces-là. Puis en effet, ben, ces traités-là pourraient entrer en vigueur par un ordre du gouvernement fédéral signé par la gouverneure générale. Le tout sans dépôt d'un projet de loi spécifique là, aux parlementaires. Donc, comme tu nous l'avais expliqué aussi, Mathieu, les chefs des Premières Nations de l'Ontario considèrent que la reconnaissance de traités signifie nécessairement l'octroi de territoire, ouais. Ce que nie la Nation métisse de l'Ontario, qui dit, elle, que ça concerne seulement leur droit de gouverner selon leurs coutumes et les services à l'enfance. Mais pourquoi est-ce que la FFM, dans ce cas-là, et les Premières Nations de l'Ontario jugent que les 6 communautés de la Nation métisse de l'Ontario sont pas légitimes? À cette question-là, Will Gooden, qui est ministre d'Habitation de la FFM, répond que tous les marqueurs identitaires de la Nation métisse, de la culture métisse, leur perlé distinctif, la gigue de la Rivière Rouge, la rébellion du Nord-Ouest, puis les héros, ont aucun lien avec l'Ontario. Donc, ils considèrent que la seule façon d'amender le projet, ce serait d'exclure la nation métisse de l'Ontario. Mm-hmm. Puis toujours sur la reconnaissance de la nation, de communauté métisse, au début du mois, il y a le chef national Inuk, Nathan Obed, qui a publié une lettre ouverte dénonçant ce qu'il qualifie de revendication illégitime du Conseil communautaire Nunatukavut, le CCN, qui s'auto-identifie comme Inuit du Labrador. Là, on est ailleurs.
On est plus à l'est, oui. Ouais.
Ouais. Pour mieux comprendre, il faut que je revienne dans le temps là, pour vous expliquer puis faire un peu la chronologie du dossier. Le CCN, qui dit représenter 6000 personnes s'identifiant comme Inuit, a été constitué en 1986 sous le nom Association des Métis du Labrador. Ensuite, ben là, il a changé le nom pour devenir Nation Métis du Labrador en 1998. Et là, son nom actuel, il l'a depuis 2010. Et puis, ben face aux contestations sur la légitimité du groupe, la Cour d'appel de Terre-Neuve et Labrador a statué en 2007 que la CCN avait, et je cite, « une revendication crédible » mais non prouvé concernant les droits autochtones donnant lieu à l'obligation de consultation de la couronne. Puis le gouvernement fédéral, lui, a toujours rejeté les revendications territoriales du groupe en 91, en 2003, en 2013 et en 2017 parce que les revendications territoriales ne satisfaisaient pas aux critères juridiques en matière de droits ancestraux. Sauf que là, ce qui vient comme on dit, fucker le chien.
Oh.
C'est qu'en 2019, le gouvernement fédéral a signé un accord de réconciliation avec le CCN qui stipule que, et je cite, le Canada a reconnu le CCN en tant que collectif autochtone.
Collectif, pas nation ou bande.
C'est ça. Puis là, d'ailleurs, le groupe des Inuits du Labrador a lancé une contestation judiciaire qui vise, entre autres, à annuler cette décision-là d'accord de conciliation du fédéral. Les audiences qui devaient avoir lieu en octobre là, dernier ont été reportées de manière inattendue et pas vraiment justifiées à 2024. La nation d'Inu dénonce aussi un conflit d'intérêts, écoutez bien ça, de la députée libérale du Labrador, Yvonne Jones, qui revendique des origines inuites. Celle-ci est aussi membre du CCN et a aussi contribué à la reconnaissance de ce dernier au niveau politique. Madame Jones, elle affirme que la position de la nation Inuit dans ce dossier-là est motivée par une animosité antilibérale.
Oh.
Dans sa lettre, le chef de la nation Inuk, Nathan Obed, la lettre dont je parlais là, au début, rappelle que le ralliement national des Métis, qui regroupe les Métis des Prairies, a jamais voulu inclure le CCN dans son organisation quand à l'époque où il s'identifiait comme Métis dans son nom. Évidemment, bon, le conseil communautaire Nunatukavut, lui, n'a pas tardé à réagir, là. Le président Todd Russell, qui est un ancien député libéral, a mis au défi l'organisation de M. Obed de produire des preuves appuyant ses, et je cite, mensonges et insinuations.
Donc, même entre libéraux, on chicane, hein, c'est ça?
C'est ça. Ben là, on n'a pas fini d'entendre parler, puis c'est sûr que c'est complexe, tous ces dossiers-là.
Ouais,
tous
les métis, là, ouais.
De reconnaissance, là, de nation métisse. En tout cas, on va essayer de suivre ça.
De preuve historique, il faut avoir un truc commun, un espèce de bagage commun.
Un truc culturel commun, c'est ça.
Puis là, on parle au Nunavut des métis, hein, c'est quand même spécial.
Ouais.
On n'a jamais entendu parler de ça, hein, Simon? On y va avec l'agenda dans quelques secondes. Ben, on n'a pas parlé du conflit israélo-palestinien aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets, mais quand même deux suggestions pour une vraie bonne foire aux questions qui explique bien les enjeux. Nos amis de Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient en ont fait une il y a quelques semaines qui est sur leur site. Donc, cjpme.nationbuilder.com. Mais cherchez CJPME sur Internet et avec foire aux questions, conflit israélo-palestinien. Sinon, une courte vidéo fait par la gang de Collectiva Media qui est diffusée par Somme Media au Québec et au Canada sur le conflit, un 10 minutes qui explique bien différents enjeux. La vidéo s'appelle « From the River to the Sea » et c'est sur sub.media ou collectiva.media. Collectiva, c'est avec des K. Mais réécoutez l'émission si ça avait été trop vite au niveau des références. Sinon, on est en plein dans les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Ça se déroule jusqu'au 6 décembre, évidemment. La thématique cette année, c'est précarité genrée, violence ignorée. Donc, des activités partout au Québec beaucoup de marches et de commémorations pour l'attentat de Polytechnique le 6 décembre. C'est organisé par des groupes de femmes partout dans la province. 12joursdaction.com. Sinon, côté manif, le front de lutte pour un immobilier populaire, le FLIP, le comité d'action par extension, le recoupement des comités logements, le RECLAC et des dizaines d'autres groupes appellent à une grande manif ce samedi 2 décembre à midi au Métroparc à Montréal. C'est la dernière minute là, pour le projet de loi 31. Donc, on demande le retrait du projet, la démission de la ministre Duranceau et un vrai gel des loyers. Aujourd'hui, le fameux article sur la fin de la cessation de bail a été adopté là, en commission parlementaire. Mmh. Ça devrait être adopté la semaine prochaine au niveau du projet de loi. Donc, c'est le temps de manifester en fin de semaine. Sinon, ben rassemblement contre les 1 an de la dictature au Pérou. Ça se passe le 7 décembre, 14h, devant le consulat du Pérou à Montréal, qui est au 550 Sherbrooke-Ouest. Le 7 décembre 2022, l'ultra-droite conservatrice péruvienne a fait un coup d'État contre le président Castillo, qui est présentement en prison. Depuis, de nombreux massacres, violations flagrantes aux droits humains et mesures dictatoriales se sont installées. Particulièrement, les paysans et les peuples autochtones ont contesté, ont été violemment réprimés. Et là, il y a toujours un espèce de gouvernement fantoche qui est au pouvoir au Pérou, avec l'appui, entre autres, du Canada. Donc, le collectif Solidarité Québec-Pérou nous invite le 7 décembre à manifester devant le consulat du Pérou. Et je vais terminer avec un événement de la Ligue des droits et libertés pour souligner le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Hein, c'est pas de la personne encore. Ça se passe donc à l'invitation de la Ligue le dimanche 10 décembre de 13h à 16h à l'auditorium de la Grande Bibliothèque à Montréal. C'est aussi disponible en virtuel, si on veut être là aussi à distance. Au programme, Paul-Étienne Rainville, historien des droits humains, Michel Rivet, ex-juge et présidente du Tribunal des droits de la personne, Mireille El-Chakar, présidente de Mère au front, Céleste Trianon, militante transféminine, et Christiane Adot, professeure de philosophie, en plus d'avoir Natacha Canapé-Fontaine aussi qui va être là au niveau artistique. Donc, ça se passe le 10 décembre à Montréal pour les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de la personne, des droits humains.
Oui, nommons-la comme nous voulons.
On va l'appeler comme on veut. Oui. Donc, voilà, on revient avec l'outro. Donc, c'est la fin de cette très belle
centième!
Merci, Marie-Ève, cette centième émission chargée quand
jaloux,
même.
Je suis jaloux, je veux crier comme ça. Oui, moi aussi.
Dans 2 semaines. <C'est>... Émission quand même chargée, quand même beaucoup de contenu. J'espère que vous avez apprécié nos citations honorifiques et hommagées en début d'émission. Et si vous voulez les réécouter, ben ça va être en ligne sûrement dès demain sur le site, notre page sur le site de Choc. Je vous rappelle qu'on a un site apatridesanonymes.info, un courriel apatridesanonymes@resist.ca, qu'on a une page FB où est-ce qu'on met des choses qui ne sont pas des médias québécois, même les indépendants malheureusement, soit des trucs militants, soit des articles internationaux comme Info Migrant. Sinon, vous dire que je remercie beaucoup Simon et Marie-Ève pour vos contributions de contenu et de mise en onde. Oui?
Ah, t'as le temps. Là.
Oui, oui.
Merci Mathieu Simon.
On se complète bien.
Jeanne Moreau.
On se complète bien. Donc, sans émission depuis mars 2019. Et on pense continuer un certain bout de temps. Est-ce qu'on va être encore là en 2025? Il nous reste une émission le 14 décembre prochain, dans 2 semaines.
Avant les fêtes, oui.
Avant les fêtes. Et on prendra un congé pour la période des fêtes. Et ensuite, on vous reviendra en janvier avec notre émission, sûrement bilan, perspective de l'année. Ça va être à voir.
Peut-être Madame Quiz va nous préparer quelque chose.
Peut-être. La dernière fois, c'était moi. C'était Monsieur Quiz.
C'était Monsieur. Okay. Peut-être un Monsieur Madame.
Monsieur Madame Quiz. Bon. On vous rappelle aussi qu'on est diffusé sur les ondes de Radio Victoria en Colombie-Britannique les mercredis et les dimanches. 2 fois par semaine. Et on va donc se laisser avec un choix musical personnel.
Voivod,
un groupe que j'aime beaucoup, qui ont fêté leurs 40 ans cette année. Leur 16e album est sorti en juillet sur Century Media. Il s'appelle Margot Tales. C'est intéressant parce qu'ils ont réenregistré des chansons de leurs différents albums avec leurs musiciens actuels. Et ils offrent 2 nouvelles pièces, dont ce cover de P.I.L., co-écrit par John Lydon et Bill Laswell en 1986, qui s'appelle Home. Et je vous rappelle, pour les amateurs qui seront à Laval le 16 décembre avec Meshuggah, In Flames et Whitechapel, donc Voivode.
Avec le Père Noël au Carrefour Laval.
Exactement, et elle a fait des glaces, fait des neiges. Et on les a vus, Marie-Ève et moi, envoler Macadam en septembre dernier à Québec avec, ouais. Avec Groovy Aardvark et mon oncle Serge Anonymous. Donc, allez les voir en show, c'est un des bons groupes à voir métal québécois. Donc, on se laisse avec la pièce Home. Merci beaucoup encore à Marie-Ève et Simon. Merci au public de nous écouter depuis 100 émissions.
Ben ouais.
Quand même.
Sont patients,
puis surtout, ils veulent s'instruire et se révolter. Hein?
Oui,
c'est bien ça. Donc, bonne soirée à tout le monde. On se reparle dans deux semaines. Salut.